RPL, partout en Lorraine.
Partout en Lorraine, sur 89.2.
89.2.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, merci d'être avec nous pour votre nouveau livre, effectivement, La liberté ou la mort. Bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À l'occasion de votre venue à Metz le 17 juin dernier, puis également à Nancy, pour faire les signatures, les dédicaces de votre livre sorti en avril 2026. Trois piliers dans le livre, démocratie, indépendance, espérance. Est-ce qu'on a besoin de vous présenter? Je pense que tout le monde vous connaît, maire de Hyères, dans l'Essonne, en Ile-de-France. Vous présidez Debout la France, vous êtes gaulliste et... à droite de l'échiquier, évidemment candidat à la présidentielle, mais aujourd'hui on vous reçoit en tant qu'auteur et presque lanceur d'alerte, puisque avec 14 livres écrits depuis 2004, vous avez en tout cas alerté et vous n'avez pas ménagé vos efforts. Je donne quelques titres d'ouvrages, dont cet ouvrage savoureux, L'Europe va dans le mur, Elle accélère et elle klaxonne, c'était en 2004. Le coup d'État simplifié en 2008. Français reprenaient le pouvoir en 2006. Résistance était en 2019 en soutien aux Gilets jaunes. Et chez le même éditeur donc, que votre ouvrage actuel, France, lève-toi et marche en 2016 chez Fayard. Et à l'époque, vous étiez déjà en rupture avec la classe politique. Comment percevez-vous l'évolution de la France, de la société, de la politique, en 10 ans, les 10 ans qui séparent ces deux ouvrages?
Eh bien, écoutez, malheureusement, ce que j'avais dénoncé est arrivé. C'est-à-dire qu'en signant des traités européens qui nous lient les mains dans tous les domaines, le pouvoir français, l'exécutif, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, le législatif, eh bien, n'ont plus le pouvoir. Ils font semblant d'agir. Et les Français le voient bien. Les Français ont bien compris. Je pense par exemple aux agriculteurs qui ont vu que toute la classe politique était contre la signature d'un accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud, le fameux Mercosur. Et puis à la fin, le Mercosur s'applique. Tous les Français voient bien que, en matière industrielle, les règles européennes interdisent une production de Made in France solide. Tous les Français voient bien que leur facture d'électricité a doublé. Et si on regarde, on voit que c'est pas la production en France d'électricité qui a doublé. Nous avons la chance d'avoir une électricité nucléaire très bon marché. Eh bien non, c'est un ensemble de règles européennes qui nous oblige à avoir un système privatisé avec des profiteurs d'électricité, comme je les appelle, qui se gavent d'argent. Bref, je pourrais citer, et dans le livre « La liberté ou la mort », j'explique concrètement les conséquences de cette perte de pouvoir. Et si je devais prendre une image, pour conclure, c'est comme une voiture. Le président de la République française, il est assis sur le siège passager, il n'a plus le volant, mais il fait croire aux Français qu'il a le volant. Mais le volant, il est devant Madame van der Leyen, devant la Commission de Bruxelles, devant ces gens qui ne sont pas élus. Parce que c'est ça le pire. Si les dirigeants européens étaient élus, on pourrait dire, bon, bah, ça me plaît pas, je préfère les dirigeants français, mais ils sont élus. Tandis que là, le volant est tenu par une caste non élue, et le président de la République gesticule sur le siège passager pour faire croire qu'il dirige la voiture. Il y a un moment où la vérité apparaît et il faut dire la vérité. Ça a été dur pour moi, j'en ai pris plein la figure parce que la classe politique ne veut pas dire la vérité. Elle veut pas dire qu'elle a plus le pouvoir parce qu'elle fait croire qu'elle l'a. Et c'est pourquoi je propose dans mon livre de reprendre le volant, tout simplement.
Alors dans votre livre, bien sûr, comme dans vos interviews, vous parlez de souveraineté. La souveraineté implique une liberté collective, implique une liberté aussi individuelle, puisque c'est un des thèmes aussi que vous défendez ardemment. Mais vous dites aussi que la souveraineté, c'est une étape. On retrouve sa souveraineté, on retrouve son indépendance. Et ensuite, la direction, bien sûr, est capitale. Parce que c'est vrai que certains souverainistes ne jurent que par le Frexit. Mais en fait, aussi, il faut avoir des idées claires sur le cap à donner et le faire valider de façon démocratique. Je crois que vous êtes, et vous en parlez dans l'ouvrage, un fervent défenseur de ce que le général de Gaulle utilisait quand même beaucoup. J'ai plus le chiffre en tête, mais vous dites, en gros, les référendums, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était un vrai mode de gouvernance. Est-ce que c'est un des modes à privilégier, ainsi que s'inspirer de la Suisse, qui est un pays nettement plus démocratique dans ses fonctionnements d'institutions?
Alors, ce que je dis, c'est que pour moi, la souveraineté n'est qu'une étape, c'est un moyen. Se mettre derrière le volant, récupérer le volant de la France, ça ne veut pas dire qu'on sait où on va. Donc, pourquoi les souverainistes, entre guillemets, ne réussissent pas aux élections? C'est parce qu'ils disent simplement, on va récupérer le volant. Mais les Français, légitimement, se disent, il va récupérer le volant, mais pour aller où? Si c'est pour aller dans le fossé, c'est pas très utile. Dans mon livre, j'explique, et dans mon projet présidentiel, que je veux récupérer le volant, pas contre l'Europe, contrairement à ce qu'on me caricature. Je veux récupérer le volant pour sortir de l'Union européenne qui ne marche pas, et reconstruire avec les pays qui volent, l'Allemagne et d'autres, une Europe qui marche, une Europe qui nous laisse la liberté chacun d'avoir sa voiture, si je puis reprendre la même métaphore, mais en revanche, de coopérer entre nous, de se retrouver à certains points d'étape. Il ne s'agit pas d'être contre l'Europe, il s'agit d'être contre l'Union européenne qui a trahi l'Europe. C'est très important parce que souvent on caricature ma position. Or ma position elle est très simple. Nous avons fait la réconciliation franco-allemande après la guerre. Et pourtant chacun avait sa frontière, chacun avait son budget, chacun avait sa monnaie. Et pour autant on a fait des choses formidables. On a fait la paix, après on a fait Airbus. C'était pas l'Union européenne, Airbus. Et on a fait le plus gros constructeur d'avions du monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voudrais que les Français arrêtent d'avoir peur d'être libres. On va retrouver notre liberté, on peut la retrouver. On va protéger les Français, l'agriculture, l'industrie. On va rétablir nos frontières. Alors, pour les frontaliers, parce que je sais qu'il y en a beaucoup à Metz, pour les frontaliers, il y a des systèmes aujourd'hui très performants qui permettent bien évidemment de reconnaître les plaques et d'éviter des embouteillages aux frontières. Mais on aura un système à la fois d'indépendance nationale pour pouvoir régler nos problèmes, comme la Suisse, et puis un système de coopération avec nos voisins. La Suisse, parlons-en, je dis que pour faire tout ça, il faut bien sûr plus de démocratie, c'est-à-dire le référendum, et même le référendum d'initiative citoyenne, comme en Suisse, pour que si 1 million de Français veulent se saisir d'un sujet, ils le peuvent. Je prends un exemple tout récent. Le Parlement a voté l'euthanasie avec un coup de force contre le Sénat qui n'en voulait pas. Eh bien, pourquoi les Français ne trancheraient pas? Il y a quantité de sujets où les Français doivent trancher les problèmes. Ils le peuvent, ils sont assez intelligents. Et ils seront beaucoup plus intelligents en général qu'une classe politique complètement déliquescente. Et c'est comme ça qu'on arrivera à redresser le pays. Et après, comme vous le disiez, à mettre en œuvre un projet, c'est-à-dire à prendre une route, une direction. Rétablir la sécurité, produire en France, faire baisser le prix d'électricité, et, dernier point, mais ce n'est pas des moindres, rétablir nos libertés, puisque les libertés publiques sont aujourd'hui menacées par l'Union européenne.
DSA, il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire rien qu'une émission là-dessus. Il y a beaucoup de règlements qui posent problème au niveau des libertés, que ce soit le chat control qui permettra la lecture de toutes les messageries privées de l'ensemble des gens qui les utilisent, comme WhatsApp, etc. Je reviens donc... au propos sur le référendum, ce référendum qui a été mentionné plusieurs fois par notre président Emmanuel Macron, qui n'a jamais été mis en œuvre depuis qu'il est au pouvoir, sur aucun sujet. Et c'est vrai que sur le sujet de l'euthanasie, par exemple, un vrai sujet de société, ça pourrait vraiment mériter une validation très large. Et dans votre livre, là, pour le président Macron, c'est la page 50, par des petites anecdotes qui se lisent vraiment presque comme un... voilà, c'est très vivant, des petites anecdotes qui valent mille mots, mille analyses des hommes politiques qui nous gouvernent. C'est page 50 sur Emmanuel Macron. Vous racontez cette anecdote, c'est en avril 2017 sur BFM. Vous parlez donc du bilan de Macron en tant que ministre de l'économie de François Hollande, avec la vente désastreuse en termes justement de souveraineté de Alstom, qui est un fleuron industriel aux Américains de General Electric. Macron vous fixe dans les yeux et prétend qu'il n'était pas ministre à cette date. Il vous donne le doute et le temps de vérifier. Vous avez peut-être eu trop de scrupules, vous le racontez. La journaliste ne vous redonnera pas la parole pour que vous puissiez le démentir et rétablir la vérité. Est-ce que, pour votre part, comme le politologue, par exemple, Clément Viktorovitch, vous considérez qu'avec Emmanuel Macron et la Macronie, nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité et pourquoi pas dire du mensonge systémique, en tout cas chez nos politiques, chez nos gouvernants?
Bah écoutez, je raconte dans mon livre parce que j'ai voulu faire un livre vivant pour raconter aux Français les coulisses de la politique, pour qu'ils sachent qui sont les personnes qui les ont gouvernées, qui les ont trompées. Et c'est vrai que je raconte cette anecdote où Macron me ment droit dans les yeux devant des millions de Français à la télévision. Et il me fait douter parce que je suis un homme honnête et je peux pas imaginer qu'un candidat à la présidentielle puisse mentir devant des millions de Français, à dire « Non, je suis pas responsable, j'étais pas ministre. » Et le temps que je vérifie s'il était ministre ou pas, eh ben on m'a jamais redonné la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les Français ont compris. Faut pas croire que les Français n'ont pas compris. Les Français sont intelligents. Ils ont compris. Simplement, ils n'ont pas les moyens de changer, parce que les Français font face à un mur de propagande télévisuelle, radiophonique. D'ailleurs, je voyais que les audiences de la télévision sont en chute libre. Les audiences des journaux régionaux sont en chute libre, mais pour une raison très simple. C'est que l'information est biaisée. Et que les Français vivent une réalité dans leur vie quotidienne. L'inflation est beaucoup plus élevée qu'on ne le dit. Le pouvoir d'achat a chuté considérablement. Le chômage est beaucoup plus élevé qu'on ne le dit. Les petits contrats s'enchaînent pour les petits contrats, notamment pour les jeunes. Nos retraités, beaucoup d'entre eux vivent dans la misère. Donc, la réalité du pays, elle est catastrophique. Mais, si vous regardez les journaux, tout va bien. C'est ça qui va pas. C'est qu'à un moment, il faut, je crois, en tout cas moi j'essaye, rétablir une vision partagée. J'avais une institutrice qui me racontait qu'on ne peut régler un problème que s'il est bien posé. Ben oui, si on pose pas bien le problème, on peut pas le résoudre. Donc moi j'aimerais qu'on pose le problème, c'est l'idée de ce livre, poser le problème et apporter des solutions. Parce que contrairement à ce qu'ils veulent faire croire aussi, il y a des solutions. Et notamment je m'élève contre ce que vous avez, la petite musique que vous entendez aujourd'hui dans les médias, qui serait que si tout va mal, c'est à cause des retraités. Que les retraités sont gavés d'argent, que les retraites sont trop élevées, qu'il faut les baisser. Monsieur Édouard Philippe, monsieur Attal, veulent baisser les pensions de retraite. Et moi je dis que c'est une honte, parce que les gaspillages financiers, c'est pas les retraités qui les font. Les retraités, ils ont cotisé toute leur vie. Et ils méritent leur retraite. Elle doit être indexée sur l'inflation, c'est la moindre des choses. Sinon, au bout de 20 ans, vous êtes dans la misère totale. Et les gaspillages, ils sont ailleurs. Mais ça, on n'en parle jamais. Les dizaines de milliards d'euros donnés à l'Ukraine, les dizaines de milliards d'euros donnés à l'Union européenne, les dizaines de milliards d'euros donnés aux fausses cartes vitales, les dizaines de milliards d'euros donnés aux industries éoliennes qui se gavent d'argent. Ça, on n'en parle jamais. Donc, je vois venir, gros comme une maison, si vous me permettez cette expression un peu familière, une nouvelle fois, les médias du système qui veulent nous faire croire que c'est la faute des retraités si la France va mal. C'est un mensonge d'État qui est répété partout, et je voudrais que les retraités comprennent qu'on leur raconte n'importe quoi et qu'ils se défendent. Et c'est pourquoi je pense vraiment qu'il faut une autre expression politique, d'autres solutions, parce que oui, on dépense trop, mais il y a tellement de gaspillage avant de toucher aux pauvres retraités.
Oui, c'est vrai que c'est des sujets, l'Ukraine par exemple, qui pourraient aussi faire l'objet de référendums. Dans ce même chapitre de l'ouvrage, toujours par des petites anecdotes parlantes et percutantes. Vous décrivez par exemple un Nicolas Sarkozy surestimant ses propres capacités, notamment de rapport de force avec justement l'Union européenne. À Hollande, des défaitistes, cyniques, voire démissionnaires. Et vous mentionnez aussi à travers d'autres anecdotes, cette fois-ci, la personnalité d'Emmanuel Macron en tant que président, un déséquilibre de personnalité inquiétant. Je vais citer quelques mots compilés, mais qui sont frappants. Narcissisme théâtral d'un comédien égocentriste, un aventurier brillant mais totalement immature. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu chez lui très tôt? Et est-ce que c'est un élément qui vous a poussé à appeler à voter Marine Le Pen? Je crois que c'était en 2017. Si je pose la question autrement, est-ce que le péril Macron, pour vous, était plus important que le péril Le Pen?
Oui, mais j'ai très clair. On m'a beaucoup reproché ce soutien de second tour. D'autres l'ont approuvé. Mais moi, je l'ai fait en conscience. Je l'ai fait en conscience parce que j'avais perçu pendant la campagne électorale que Macron avait un déséquilibre de personnalité très fort. Et vous pouvez être très brillant et avoir un déséquilibre et être un très mauvais président. Et on l'a vu malheureusement. Et c'est vrai qu'au second tour, j'avais eu 4,7% des voix. J'ai dit qu'à titre personnel, je voterais Marine Le Pen. Ça a fait un tremblement de terre, tout le monde m'a accusé de tous les noms. Mais si on regarde a posteriori, eh bien, le péril, c'était pas Le Pen. Le péril, c'était Macron. Et j'espère qu'au moins on me rendra grâce de ce constat. Maintenant, l'enjeu, c'est de proposer aux Français une voie solide, un chemin.
Excusez-moi. Suite à cette prise de position que vous nous expliquez à l'instant, les attaques vont bon train. Et il y a une anecdote quand même incroyable dans votre ouvrage. Un matin, vous recevez un étonnant courrier de soutien d'une psychologue qui vous révèle, pour les lecteurs, ce serait page 103-104, un secret de résilience qui va changer votre vie et étonner même vos proches. Est-ce que vous voulez nous partager cet élément qui est presque du développement personnel?
Oui, ben elle me dit, à chaque fois que vous subissez une insulte, une attaque, pensez aux gens gentils qui, dans la même journée, vous ont donné un mot de réconfort, vous ont fait une preuve d'amitié. Eh bien, je vais vous dire, ça a changé ma vie et je crois que chacun peut se l'appliquer, il n'y a pas que les hommes politiques. Alors nous, on subit plus d'attaques que les autres en général, mais ça m'a aidé à surmonter ces attaques perfides de certains journalistes qui me harcelaient, en voyant aussi tous les gens qui approuvaient mon choix et qui me soutenaient. Eh bien, depuis, je m'applique ce principe. À chaque fois que quelqu'un me dit une chose désagréable, eh bien, je pense à ceux qui m'ont dit une chose agréable dans la même journée. Eh bien, je vous le recommande, ça marche très bien.
Il y a effectivement dans votre ouvrage aussi des passages fondamentaux sur la façon dont vous vous inspirez de ce que vous ont transmis aussi bien votre grand-père qui avait fait la première et deuxième guerre, que votre papa et que votre maman qui s'est dévouée corps et âme, qui vous a transmis des valeurs très élevées finalement, qui continuent peut-être à guider votre vision aujourd'hui et que vous continuez à transmettre aussi familialement. Est-ce que là il n'y a pas les secrets de transmission, de réussite à la fois d'une vie, d'une carrière politique et qu'est-ce qui finalement au cœur de votre vision vous nourrit le plus profondément en tant que en tant qu'être humain, en tant que vision humaniste et politique?
Oui, c'est vrai que c'est pas facile à écrire parce que je suis très pudique, mais souvent on me disait tu devrais raconter la vie de tes parents, tes grands-parents, et je l'ai fait un peu de manière pudique parce que j'aime pas me dévoiler, mais
c'était peut-être la première fois.
Oui, c'est la première et la dernière, sans doute. Ouais. Mais parce que c'est pas l'objet, mais en même temps, je pense que c'est important. Souvent, on me reproche, faut être honnête, un parcours solitaire. On me dit, oui, tu n'es jamais d'accord, mais c'est pas de ma faute si j'ai pas été d'accord. C'est qu'ils ont tout abandonné. Donc, est-ce que j'aurais dû faire comme les autres, à suivre comme d'un mouton, par arrivisme politique? Regardez, voyez Wauquiez, c'est pathétique. Voyez tous ces politiciens, qui c'est pathétique, qui font exactement le contraire de ce qu'ils ont toujours promis. Moi, j'ai essayé de garder une certaine constance. C'est pas facile, mais j'ai voulu expliquer pourquoi. Parce que je pense que l'engagement politique n'a de sens que si on est constant et qu'on est honnête vis-à-vis de nos concitoyens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mes positions. Moi, je comprends très bien que des gens n'aiment pas mes positions, ne votent pas pour moi, mais qu'au moins ils reconnaissent que je suis constant. Et dans ma ville, hier, j'ai été réélu 30 000 habitants à 80% des voix contre toute attente à la mairie au mois de mars dernier. Ben, ça m'a fait plaisir parce que vous pensez bien qu'il n'y a pas 80% de mes concitoyens de ma ville qui partagent mes opinions politiques. Simplement, ils reconnaissent que je fais bien mon boulot et que je suis honnête dans mon comportement. Et le jour où parce que je suis pas le seul dans la politique qui est comme ça. Il y a plein de personnalités politiques honnêtes. Il y a plein de députés et sénateurs qui sont très bien. Mais vous les entendez jamais. Donc pourquoi le système partisan, le régime des partis que détestait De Gaulle, pourquoi le régime des partis fait monter, si je puis dire, les mauvaises herbes? Pourquoi les bonnes herbes sont cachées? Ce que je veux dire aux Français, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités politiques de grande qualité. D'ailleurs, ils en connaissent au niveau local. Des maires, des... Simplement, dans le système politique d'aujourd'hui, les bonnes personnalités politiques, ce que j'appelle les belles âmes, ont beaucoup de mal à réussir. Parce que vous avez des bandits, ce que j'appelle les bandits, au sens symbolique du terme. Je ne dis pas qu'ils sont des voleurs, mais les bandits de la politique, des bandits de grand chemin, qui ont pris le pouvoir. Et il faut vraiment, et je dis aux Français, qu'ils aillent voter, qu'ils aillent... Il y a toujours l'occasion de voter peut-être pour le meilleur ou le moins pire. Et il faut aller voter, il ne faut pas laisser les bandits de grand chemin de la politique monopoliser le suffrage.
Vous êtes, et vous ne le cachez pas dans l'ouvrage, pour un système de vote obligatoire, où par exemple le vote permet la réinitialisation, la continuation de la carte vitale, quelque chose de simple et de pratique qui n'oblige pas à voter, mais... donne quand même une quasi-obligation. Bah, c'est pour vous important que chacun s'exprime, au moins pour avoir le moins pire. C'est un peu l'idée générale.
Bah, je pense que le jour où tous les abstentionnistes iront voter, on sera débarrassé du pire de la politique. Parce que malgré tout, si ce système perdure depuis tant d'années, c'est parce que beaucoup de Français ne vont plus voter. Et c'est pas en s'abstenant qu'ils vont régler le problème. C'est en allant voter. Donc je pense que la démocratie, ça s'entretient. C'est comme l'exercice. C'est comme la gymnastique. Si on ne va pas voter, ben on n'est plus en démocratie. Et ça, c'est le grave problème. Donc moi, je lance un appel à tous les abstentionnistes. Allez voter. Allez voter. Mais je veux la reconnaissance aussi du vote blanc. Parce qu'on peut ne pas vouloir voter pour ceux qui sont là. Donc reconnaissance du vote blanc, vote obligatoire, référendum d'initiative citoyenne. Je pense que la seule solution, c'est d'oxygéner ce corps politique malade.
Alors, vous êtes aussi une personnalité politique qui peut discuter dans un train avec un abstentionniste. C'est un chapitre aussi du livre. C'est aussi sympathiser avec des gilets jaunes que vous avez soutenus et passer finalement plusieurs heures avec eux pour avoir des discussions profondes, des contacts profonds. Vous êtes aussi ouvert aux lanceurs d'alerte dans votre ouvrage, même quand ça vous pose problème. Vous racontez que vous croisez un tailleur de pierre qui a travaillé 30 années, notamment sur Notre-Dame à Paris, et il vous confie après l'incendie que pour lui, c'est quasiment impossible sans l'ajout de produits extérieurs, notamment produits inflammables. Et vous relayez trois hypothèses sur les plateaux de TV, un peu pour reprendre ses propos, soit un accident, une négligence, soit un attentat. Et là, c'est un déluge de feu qui tombe sur vous. Avec des éléments de langage qui vous font quasiment passer pour un complotiste. Cette liberté de parole, cette proximité, cette écoute, ça vous a aussi parfois coûté cher?
Ah ben c'est clair, ça m'a fait perdre les élections européennes. Ma liste est passée de 8% à 3% en quelques semaines.
Suite à ça d'ailleurs.
Oui, mais suite à ça, parce que vous êtes face à un système médiatique et politique qui tout à coup se jette comme des loups sur la proie. J'ai simplement posé une question sur l'incendie de Notre-Dame et immédiatement tous les ministres du gouvernement, toutes les personnalités politiques, tous les journalistes du système m'ont traité de fou. Mais carrément, hein, de complotiste. Et aujourd'hui, 7 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et on ne saura jamais parce que Ils ne veulent pas qu'on sache. Voilà, la réalité, elle est là. Mais un jour, vous verrez qu'on saura. Peut-être pas de notre vivant, mais on saura ce qui s'est passé à Notre-Dame. Pourquoi, à pleine crise des Gilets jaunes, tout à coup, Notre-Dame brûle? Et pourquoi alors la crise des Gilets jaunes s'arrête? Évidemment, il y a une telle sidération avec l'incendie de Notre-Dame.
Vous avez été aussi sur le sujet du Covid, des positions politiques courageuses. Le vaccin n'empêche pas la transmission, vous l'avez dit très tôt, et remise en question de l'obligation par rapport aux jeunes qui n'avaient pas finalement de raison de se vacciner et étaient quand même soumis aux effets secondaires. J'ai une question pour vous, qui me travaille sur l'affaire dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la vente aux Américains de Alstom. Il y a deux personnalités de premier plan, Olivier Marleix et Éric Dénessé. Donc Éric Dénessé, issu du renseignement, Olivier Marleix, député, un politique connu aussi, qui, à quelques semaines de distance, se sont suicidés. En tout cas, c'est la thèse la plus retenue. Et qui étaient tous les deux, justement, très impliqués sur ce dossier. D'ailleurs, Marleix préparait un ouvrage qui traitait notamment de ce sujet. Pour vous, c'est une des questions qui n'a pas trop été traitée non plus dans les médias. Est-ce que c'est un hasard? C'est une coïncidence? On peut parler aussi, de hasard ou coïncidence dans la temporalité et les problèmes qu'a eu l'association Anticor pour le renouvellement de son accréditation, alors qu'elle avait aussi plusieurs fois porté partie civile et restée en justice dans ce dossier Alstom. Pour vous, est-ce qu'il y a un loup dans ce dossier, pour conclure là-dessus?
Je ne sais pas, mais il est clair que je me suis interrogé comme des millions de Français. Et tout ça est très effrayant. J'espère pas qu'il y a un lien, mais je n'en suis pas sûr. Voilà, et je ne peux rien dire pour l'instant parce que je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai rassuré le jour où Emmanuel Macron sera parti de l'Élysée, et c'est pas encore fait. Il veut nous précipiter vers la guerre, il veut nous entraîner dans un conflit avec la Russie, et tant qu'il n'aura pas quitté l'Élysée, je ne serai pas rassuré pour mon pays.
Nicolas Dupont-Aignan, votre livre « La liberté ou la mort » se lit très agréablement. C'est palpitant, 312 pages qu'on ne voit pas passer. Et c'est chez Fayard. Donc, pour se plonger dans votre pensée et la comprendre en profondeur, merci à vous et nous restons en contact.
Merci beaucoup à vous de votre émission. Merci.
RPL 89.2.